Pour cette première chronique, nous tenions à vous parler d'une enquête réalisée par et avec plusieurs camarades, étudiantes et étudiants de notre licence de lettres sciences politiques. À l'origine de cette étude, un sentiment, celui d'une inégale répartition de la parole dans notre promotion.
En effet, nous avons remarqué que les hommes semblaient plus prendre la parole que les femmes. Et pour en avoir le cœur net, nous avons commencé à comptabiliser les prises de parole lors du premier semestre de notre première année.
La méthodologie était plutôt simple, compter et classer chacune des prises de parole en les catégorisant en fonction de leur nature, soit les réponses aux interrogations des enseignants et enseignantes, les questions métathématiques ou incompréhensions, c'est-à-dire qui ne portent pas directement sur le contenu du cours, les réflexions, dont la fonction est de livrer une analyse sans sollicitation enseignante, et quatre autres catégories que je vous invite à découvrir en lisant le résultat de notre étude, accessible notamment sur les réseaux du Zoom.
Et alors le rapport est plus qu'éloquent, puisque sur les 324 prises de parole recensées, 128 étaient faites par des femmes contre 196 par des hommes. Une différence pas si significative s'il n'y avait pas 43 femmes pour 16 hommes dans notre promotion.
C'est-à-dire que 71% de la promotion, les femmes, effectuent seulement 39% des prises de parole, contre 61% chez les hommes, qui ne sont pourtant que 29% des effectifs de la classe.
En moyenne, au premier semestre, un homme a pris la parole 10 fois, là où une femme l'a pris seulement 2 fois. Cette différence genrée s'observe à une échelle plus ou moins importante dans les 16 cours comptabilisés.
Autre fait éloquent, cette différenciation genrée des interventions se remarque également dans la nature des prises de parole, puisque les femmes posent plus de questions catégorisées comme métathématiques et incompréhension, par exemple des demandes pour clarifier des passages du cours ou les modalités des examens, là où les hommes prennent plus la parole pour demander des approfondissements, donner des réflexions et répondre aux questions des professeurs.
Pour tenter de comprendre quels facteurs jouent sur cette inégale répartition, nous avons établi un questionnaire anonyme et déclaratif portant sur des critères éducationnels, politiques et socio-économiques. Et là encore, on observe de nettes différences genrées. Globalement, les femmes déclarent avoir moins confiance en elles, se sentent moins compétentes et sous-estiment l'état d'esprit de la promotion par rapport aux hommes. Des facteurs qui pourraient expliquer une telle disparité genrée dans notre licence de lettres sciences politiques.
Anne de Brosse est maîtresse de conférence à l'Université de Poitiers et responsable pour l'UFR Lettres et Langues de la mission Égalité et Diversité, un organisme qui agit en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et lutte contre les différents types de discrimination. Elle a lu notre enquête et nous nous sommes entretenus avec elle pour réagir à ces statistiques et analyser les résultats.
Alors ma première réaction, je dois dire, ça a été quand même la joie et le plaisir de voir que ces problématiques étaient prises en charge par les étudiants de l'Université de Poitiers. Parce qu'effectivement, ce sont des problématiques qu'on connaît bien quand on s'intéresse aux questions de genre et quand on s'intéresse aux questions de genre dans la pédagogie. Il y a eu des colloques, des publications sur ce sujet, où en effet on se rend compte que la parole des jeunes, des femmes, mais aussi parfois des petites filles, hein, n'est pas du tout prise en compte de la même façon, ce qui est un petit peu ce qui entraîne par la suite des réactions de la part des petites filles puis des jeunes femmes, de repli aussi. Donc les résultats de l'enquête ne m'ont pas tellement étonnée.
Une parole féminine non prise en compte, et ce, dès les premiers instants de la socialisation. Un autre facteur expliquant cette différenciation, un problème d'évaluation des compétences.
Donc il y a vraiment quelque chose du point de vue des compétences. Une femme, souvent, les femmes, ont tendance à vraiment évaluer, voire sous-évaluer, évaluer justement ou sous-évaluer leurs capacités et compétences. Les jeunes hommes évaluent correctement ou surévaluent. Donc là, il y a quelque chose, effectivement, il y a un point là qui est à travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut rabaisser le caquet des garçons, c'est pas du tout ça. Mais effectivement, donner confiance aux jeunes femmes, je pense que c'est ça qui est important. Leur montrer qu'elles ont les mêmes compétences, les mêmes capacités.
Elle ajoute que ce sentiment d'incompétence est d'autant plus infondé qu'il est contredit par les statistiques qui montrent que les femmes ont de meilleurs résultats scolaires.
Vous avez dit en riant faire taire les jeunes hommes, mais parfois dans le monde militant précisément, c'est
des mesures qui sont prises, en tout cas d'alterner par exemple les prises de parole, enfin toujours une prise de parole masculine par une prise de parole féminine, ou alors d'autres mesures. Sur ces propositions, vous, quel regard vous portez dessus?
Ce sont des propositions très intéressantes. Il m'est arrivé en cours de faire des choses comme ça, de façon un peu expérimentale, aussi de parler au féminin, alors qu'il y avait des garçons, déjà en minorité, donc c'était le féminin par quantitatif, si vous voulez. Et c'est vrai que toujours ça fait un petit choc, c'est-à-dire que ça amène le groupe à s'interroger sur ces questions-là. Et je devrais peut-être le faire plus souvent d'ailleurs. Mais en effet, les questions de faire alterner la parole, je trouve ça très intéressant, mais peut-être plutôt avec des groupes avertis. C'est toujours un peu difficile, ces questions-là. Parce que si c'est un groupe, ou alors il faut le préparer vraiment. Parce que je ne me vois pas mettre des jeunes femmes, en particulier mal à l'aise, en les obligeant. Il y a des moments où on peut le faire facilement et d'autres où on ne peut pas le faire facilement. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en considération quand même la sensibilité des personnes. Et c'est là que le militantisme, en un sens, se heurte au principe de réalité.
Un combat à mener avec toutes les armes à notre disposition, celles offertes par le monde militant, bien entendu, mais aussi via le matériel scolaire.
Et justement, est-ce que vous pensez que ces questions de représentation et représentation du féminin et aussi des jeunes femmes dans les matériels de cours, ça puisse avoir un impact sur leur confiance en elles et leur propension à prendre la parole justement dans une salle de classe?
Oui, et là vous n'avez pas tort sur le conservatisme de l'université quand même. C'est-à-dire que aussi bien pour l'écriture inclusive, je pense que l'université a du recul et de la réflexivité, etc., malgré quelques... il y a des désaccords. Pour utiliser le matériel, c'est plus difficile. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas de recherche sur les femmes, l'histoire des femmes, l'écriture des femmes, comment a-t-on accès à ces textes de femmes? Comment a-t-on accès à des éditions critiques qui nous permettent de faire un cours de bonne qualité quand même? Nous sommes dans le supérieur, donc il faut faire un cours qui tient la route, quoi, qui est solide. Et en fait, nous manquons de matériel. Donc toutes ces choses-là mériteraient d'être vraiment plus mises en avant. Mais vous voyez bien, il faut équilibrer entre l'accessibilité, l'accès au canon, parce qu'il faut, c'est notre métier d'enseignant aussi, et l'accès à des textes, justement, qui mériteraient de figurer au canon, qui sont des textes de femmes, de personnes transgenres, queer, etc., mais qui demandent vraiment un investissement de la part de l'enseignant, ça c'est vrai.
Alors, quel avenir et quelles solutions apporter pour répondre à ce problème de répartition des prises de parole genrées dans notre licence et au-delà? Anne de Brosse nous a répondu.
Déjà, savoir, c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire que grâce à la connaissance, grâce à la vigilance, on peut faire un travail sur soi et se forcer à parler quand on est une jeune femme. On peut, quand on est professeur, se forcer à écouter davantage une jeune femme. C'est pas très compliqué de se forcer non plus, ce n'est pas se forcer en réalité, surtout quand on est enseignant, puisque voilà, on peut effectivement donner la parole quand deux, trois mains se lèvent, si c'est deux garçons et une fille, donner la parole à la jeune femme d'abord. Ce n'est pas de la galanterie, hein. Attention, c'est pas du tout la question, c'est vraiment mûrement réfléchi et une façon de donner la parole aux jeunes femmes. Je parle du point de vue de l'enseignante à l'université. Néanmoins, il est vrai que du point de vue des jeunes femmes, c'est se forcer. Je dirais, pour encourager les jeunes femmes, que plus on le fait et moins on a peur du ridicule, plus c'est facile.
Cette inégalité reflète aussi l'état global de notre société, largement dominée par la parole masculine, que cela soit dans l'éducation ou bien dans le milieu professionnel, mais aussi dans les médias où la parole féminine représentait en 2022 seulement 36% du temps de parole pour 43% de présence féminine à l'antenne. Une problématique qui nécessite la mise en place de mesures significatives pour une meilleure répartition de la parole juste et égalitaire, et des solutions à notre échelle étudiante, on vous en propose dans notre conclusion de rapport que, encore une fois, on vous invite à lire.
Une enquête menée avec
Colline Lou
à la conception,
Mathilde Boutin-Noël,
Alexis Piguel
et
Camilla Rocha.
Pour les décomptes et
Aurélie Duvivier
pour le compte-rendu, l'analyse et l'entretien. Merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre sondage. Merci à Anne Debrosse pour ses précieux éclairages. Et merci à vous pour votre écoute.
Maintenant, je décide.
À très vite.
D'alcool dans sa ville, elle m'a dit qu'il fallait faire le tri dans sa tête. Salomé m'a dit que dans ses rêves elle était libre et qu'elle vivait vraiment sa vie. Hey, Salomé m'a dit ouais c'est moi qui décide. Qu'elle en avait marre de sentir inférieure et qu'elle avait peur de sentir à l'écart d'une société qui fait taire les filles. Donc Salomé m'a dit qu'elle voudrait se faire la malle ou bien faire taire les mâles pour que tout soit égal. Ouais, elle a giflé son patron vu qu'entre deux salaires y'avait trop d'écart. Y'avait trop d'écart dans ce qu'elle montrait aux hommes, souvent l'impression de ne pas être écoutée. Marre d'une société qui lui dit d'être une princesse, marre d'y penser, marre de sentir les larmes couler. Salomé rêvait d'égalité des sexes et de son vivant voir une révolution, voir toutes les femmes crient à l'unisson. Faut arrêter de se dire qu'on peut vivre avec.
Maintenant je décide.